BFM Bourse, on refait la séance.
Avec pour nous accompagner ce soir également Aymeric Lang pour Erasmus Gestion. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Yann.
Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée en vidéo. Bonsoir Aymeric. Ravi de vous retrouver également. Et Romain Dobry qui nous accompagne aussi. Bon, oui, il y a du stress quand même sur le marché. Le CAC 40 ce soir recule de plus d'1%. Troisième baisse d'affilée. Et depuis le début du mois de juin, il perd plus de 5%. Le CAC est en train de vivre, Aymeric, son pire mois depuis septembre 2022. Et c'est une exception française. Alors, on parle toujours de l'exception française. Eh bien, il y en a une là sur les marchés internationaux. C'est le CAC 40 qui sous-performe face aux autres marchés européens. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que gérant action, pas mal exposé aussi à la France là?
Je pense que c'est rare que le risque politique ait un impact très marqué sur les marchés. Là, c'est très clair que pour la France, il en a un. Et je pense à juste titre, vu les incertitudes d'un point de vue budgétaire notamment, et ce qui veut dire incertitude budgétaire dit également hausse des taux qui pourrait avoir un impact très fort sur les actifs financiers. Donc très clairement une exception française qui est dans le mauvais sens, avec beaucoup d'incertitudes qui est pricée immédiatement par le marché.
Effectivement. Eric, même question. Le CAC ce soir sous-performe largement les autres marchés européens. Le CAC perd 1% quand l'Eurostoxx 50 a perdu à peine 0,2%. Il y a un vrai écart là.
Ben oui, on est quand même à l'avant-veille du premier tour des élections législatives. On sait bien que c'est une période d'incertitude avec une potentielle volatilité importante la semaine prochaine. En fonction de ce que le fonds populaire va réussir à faire en termes de résultats, c'est pas étonnant qu'il y ait un petit mouvement d'inquiétude hein, quand même. Je pense que ça exprime un peu les choses. Quand on regarde l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, il s'est un petit peu écarté. On était autour de 0,75 points de base hier, hein, on est en train de remonter au-dessus de 0,80, 0,82 là ce soir, donc ça se traduit immédiatement dans les cours de bourse de la place parisienne. Aujourd'hui, les obligations françaises sont plus chères que les obligations portugaises.
Effectivement. Bon, après, il n'y a pas un incendie sur le marché obligataire, mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'on voit plus de réactions, plus de sensibilité sur les actions en ce moment que sur l'obligataire. L'écart de taux avec l'Allemagne est stable. Il est stable, faut aussi le dire. Hein. On n'est pas sur un incendie, pas encore. On est à 74 points d'écart de taux aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands. Mais Romain, vous nous le disiez sur la volatilité, par exemple. On a une volatilité sur le marché parisien que vous arrivez à calculer à 24, bien plus élevée que sur les autres marchés européens. Est-ce que cet indicateur-là est véritablement révélateur de l'état d'esprit des marchés où on est dans de la spéculation pure malgré tout aussi à quelques jours de ce premier tour?
Ah non, je pense que ça révèle vraiment l'état d'esprit des opérateurs. Il faut expliquer, rappeler que la volatilité, on la mesure du prix des options. C'est-à-dire que c'est une mesure objective du prix auquel on s'assure, auquel on se protège. Donc, il pourrait y avoir de la spéculation, mais en l'occurrence, c'est bien le fait que, l'assurance coûte cher à Paris. Tout simplement, hein, si vous voulez assurer votre maison, vous allez voir votre assureur en temps normal, il y aura un prix indiqué classique. Si on annonce qu'il va y avoir des tempêtes dans la région, le prix d'assurance va augmenter. Bah, là, évidemment, tout le monde est en train de se protéger, donc le coût de l'assurance augmente et c'est vraiment une mesure du stress. Alors ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de dur qui soit à venir. Au contraire, quand tout le monde est prévenu, c'est souvent quelque chose d'autre qui peut se mettre en place, ou si quelque chose de négatif arrive, eh bien le mouvement sera plus modéré ou plus canalisé, on va dire, parce que les opérateurs seront déjà prévenus. Donc c'est une mesure objective de l'état d'esprit des opérateurs et c'est surtout une mesure instantanée, contrairement à la volatilité historique qui, elle, mesure ce qui s'est passé avant. Là, on mesure ce qui se passe instantanément et le prix auquel on assure et on se protège.
Cette question d'auditeur, d'ailleurs, pour rebondir sur ces législatives, leur impact sur le marché, il s'appelle Altrien. Est-il temps, nous demande Altrien, de se positionner d'ores et déjà sur les valeurs bancaires qui ont fortement chuté, ou serait-il plus sage d'attendre au moins le résultat des législatives? Aymeric.
Je pense que là, très clairement, il y a pas d'urgence, notamment quand même garder à l'esprit que, un, c'est un secteur qui a très très bien fonctionné depuis le début de l'année, alors qu'il est consolide depuis quelques semaines, mais qui avait très bien fonctionné auparavant. Et deux, les banques françaises détiennent plus de 20% de la dette française. Donc si post-législative, on a une explosion des coûts de la dette française, ça va être très négatif pour les bilans des banques françaises, et donc avec un impact sur leur cours de bourse qui sera une nouvelle fois très importante. Et en plus de ça, forcément, la prime de risque augmente, donc les banques sont touchées et le coût d'actualisation augmente également pour elles.
Eric, cette question de Altrien, donc notre auditeur téléspectateur qui nous a écrit, c'est très facile de nous écrire, hein, il suffit de flasher ou scanner le QR code qui apparaît régulièrement sur vos écrans. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il faut revenir sur le secteur bancaire ou on attend?
Je serais un petit peu plus positif de ce qui vient d'être dit. En fait, on a une décote sur l'actif net de BNP Paribas de l'ordre de 40%, du Crédit Agricole 40%, et entre 60 et 70%, ça c'était général. On a les taux de rendement qui frôlent les 8% pour Crédit Agricole et BNP. On a les PER qui sont avec deux points de différentiel avec l'historique 5 ans et 10 ans qui est quand même relativement faible. Hein. Donc on se fait 6,5 fois le PER de la BNP avec des résultats qui se tiennent bien, des entreprises qui sont extrêmement solides avec une grosse solvabilité. Donc évidemment, on voit bien que ce sont les banques qui font partie des secteurs les plus touchés par l'aversion au risque. Hein. Quand on regarde la BNP depuis le 7 juin, on a perdu par rapport au marché 7% de plus, 13% pour la Société Générale et 10% pour le Crédit Agricole. Donc, il y a eu un beau retour. Oui, acheter avant la résultat des élections, c'est peut-être un petit peu trop aventureux. Mais je pense, enfin, à moins que, encore une fois, hein, que le scénario donc d'un front populaire qui arrive au pouvoir, là, effectivement, je pense que la bourse et les banques seraient très affectées. Mm-hmm. Mais sinon, je pense que on a déjà bien reculé. Donc, je dirais pas d'acheter à fond, mais de garder des positions en tout cas.
Oui, on a quand même. Alors voilà, on a quand même là, quand on regarde par exemple sur Investing, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est 80 points là. Malgré tout. Mmh. Oui, malgré tout. C'est-à-dire que c'est quand on regarde, c'est quand même, on retrouve les niveaux les plus hauts, largement même, depuis l'annonce de la dissolution sur l'écart France-Allemagne aujourd'hui. Émeric.
Mais ce qui
ça va pas dans le sens des banques, ça.
Mais ça va pas dans le sens des banques et c'est cohérent par rapport à plusieurs ratios d'endettement du gouvernement. En fait, on était sur des niveaux qui étaient artificiellement bas pour la France et finalement c'est un repricing assez normal, assez logique et ça touche bien évidemment en premier lieu les banques. Alors après, c'est vrai que ça reste pas très cher, c'est certain.
Etienne, depuis la tour Euronext, nous signale on est à 82 points. 82 points d'écart de taux là désormais entre la France et l'Allemagne. On suit tout ça très très près, bien évidemment. Et puis on regarde aussi le reste du marché. Important, OVH par exemple, il y a quelques bonnes nouvelles dans ce marché français qui sous-performe les autres marchés. OVH Cloud, ce soir, après la publication de ses résultats et de ses perspectives, semble se réveiller. 13% de hausse pour OVH Cloud, de plus en plus de demandes des acteurs technologiques américains par exemple, mais pas que. Est-ce que cette publication vous convainc au point de justifier, à vos yeux, Émeric, cette hausse de 13% ce soir?
La hausse de 13%, elle fait suite à une baisse très violente. On était parti en ligne droite de 11 à 4,5, il me semble, en l'espace de 2 mois. Donc là, il y a un rallye de soulagement parce qu'ils ont reconfirmé les chiffres qu'ils avaient donnés après leur warning il y a 2 mois. Donc bon, c'est vraiment un rallye de soulagement. Quand on regarde en dessous et quand on regarde dans le détail, on voit quand même un ralentissement séquentiel très clair. Le troisième trimestre est moins bon que les deux trimestres d'avant. Et l'autre sujet, c'est la question des investissements nécessaires. C'est un métier où il y a besoin d'énormément d'investissements. Et OVH a une taille qui est peut-être trop petite dans ce métier pour structurellement réussir. Donc c'est pour ça que nous on reste prudents sur cette société-là et sur ce cas d'investissement.
Votre regard OVH plus 13. Est-ce que c'est déjà le moment de revendre Eric Blaine depuis Swiss Life Banque Privée?
Je suis assez d'accord avec Émeric. Hein. Le sujet de cette entreprise, c'est sa taille et l'intensité capitalistique de cette activité dans un domaine où il y a des très gros joueurs. Et donc, on avait des niveaux d'investissement en proportion du chiffre d'affaires qui étaient à hauteur de 50% en 2021 et 2022. Depuis 2 ans, on est descendu à 40%. Ce qui leur permet en fait de générer un peu de cash flow libre des investissements de croissance, c'est-à-dire entre 220 et 250 millions d'euros. Mais le problème, c'est que comme ils veulent croître avant de faire des résultats, c'est qu'ils investissent ces 220, 230 millions d'euros pour faire de la croissance. Du coup, il n'y a pas de dividendes et il n'y a pas de résultats nets. Alors, il faut croire à la croissance, il faut croire qu'OVH va s'en sortir par rapport à des objectifs européens, et il ne faut pas avoir envie d'avoir de rentabilité dans une entreprise qui, pour le coup, a beaucoup de dettes. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, je n'y vais pas et je ne conseillerais pas d'y aller. Voilà.
C'est dit. Une autre valeur, alors, qui, elle, se développe, c'est un beau groupe hein, qui marche bien en bourse, on va parler de Saint-Gobain, qui va en plus pouvoir se renforcer sur des marchés absolument stratégiques, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Asie. Il s'agit donc de Saint-Gobain qui acquiert le britannique Fosroc. Pour combien ? Pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Est-ce que cette acquisition va lui permettre véritablement de renforcer encore son potentiel boursier qui était déjà important, qui avait déjà été identifié par les investisseurs. Mais est-ce que vous estimez que ce potentiel, ce soir, après l'annonce de cette acquisition, est désormais plus important?
Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça renforce la présence dans des pays où il y a de la croissance. Je pense notamment à l'Inde. C'est relutif en termes de marge. Il y a un niveau de marge qui est supérieur, de l'ordre de 19-20% contre 14-15% pour le groupe. Donc c'est une bonne nouvelle aussi d'un point de vue marge. Et surtout, ça leur permet de se développer dans un marché qui est clé. C'est les produits de spécialité chimique destinés à la construction. Et là, ça commence à devenir un pôle assez intéressant parce que c'est plus de 6 milliards d'euros, donc plus de 10% de leur chiffre d'affaires, avec des perspectives de croissance et de niveau de marge qui sont assez attractives. Donc c'est-à-dire que le potentiel à long terme, à la fois de la croissance du chiffre d'affaires et des marges, s'améliore. Donc nous, ça nous paraît être une acquisition assez intéressante, très clairement.
Une autre valeur qui se distingue, alors à la baisse, et c'est pas la seule, H&M qui a publié ses résultats, ses perspectives, le printemps pas terrible sur une partie de l'Europe a pesé sur les ventes d'H&M, peut-être seront-elles les ventes en baisse au mois de juin, on verra. En tout cas, le titre H&M ce soir perd plus de 12%. Et on voit que quand le marché est déçu en ce moment, il sanctionne lourdement. H&M aujourd'hui, Alphen hier, qui sur sa publication, ses annonces, a perdu plus de 50%. On a vu Trigano en début de semaine aussi en net repli sur sa publication. Est-ce que ça, c'est le signe d'un marché qui va peut-être se montrer sévère à l'occasion des prochaine publication? Est-ce que la saison de résultats risque d'entraîner des sanctions à la moindre déception, Henrik?
C'est clairement une possibilité. En fait, dès qu'il y a une déception, et là c'était le cas très clair pour H&M, parce que l'excuse du temps, je la trouve un petit peu légère. On voit qu'Inditex, par exemple, n'a pas du tout souffert de ça. Et donc, dès qu'il y a le moindre doute sur la validité et la capacité de la société à croître dans le marché, tout de suite c'est sanctionné. Et effectivement, c'est annonciateur, à mon avis, de sanctions très sévères à venir potentielles à la moindre déception.
C'est votre avis aussi, Eric, pour la saison de publication qui va démarrer?
Moi, j'ai quand même l'impression là qu'on s'intéresse pas mal au ralentissement de la consommation aux États-Unis. On voit d'ailleurs Levi's, c'est pareil, décroche aujourd'hui. On a eu des informations comme quoi la consommation est faible aux États-Unis. H&M, là, voit ses ventes chuter de 6%. Du coup, elle baisse sensiblement. C'est clair qu'on est très attentif en fait au ralentissement américain, et en particulier, on a eu des mauvaises nouvelles dans la conso. Voilà, je pense que le marché va être bon. Les prix sont ça vaut 20 fois hein, quand même, hein, H&M, donc une déception, ça coûte cher en bourse. Voilà, donc je pense que c'est la consommation américaine qui est regardée attentivement. Et est-ce que le marché va être nerveux, il va être nerveux avec les élections, on se rapproche des élections américaines aussi, donc les marchés sont assez élevés quand même de manière générale. C'est pas anormal quand même que sur des publications qui déçoivent, le marché réagisse
vous citiez
de façon Levi's, assez importante.
Vous citiez Levi's. Levi's à Wall Street perd 16% parce qu'avec la hausse des prix, l'inflation, les Américains mettent de plus en plus de temps à renouveler leur gamme de jeans. C'est ce que nous dit Levi's, et le titre Levi's perd 16% en ce moment effectivement à Wall Street. Il y a aussi Micron qui est pourtant bien exposé à l'IA, qui publie des perspectives qui sont conformes aux attentes. Elles sont fortes, ces perspectives, mais juste conformes aux attentes. On voit que le marché est de plus en plus gourmand sur la tech. On attend de plus en plus, et Micron, donc malgré ses belles perspectives, recule à Wall Street de 6%. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Emeric Lang pour Erasmus Gestion, Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life, banque privée.